Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Agnès Buzyn.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour ce grand oral, à mes côtés aujourd'hui, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour, bonjour Guillaume. Et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Bonjour. Bonjour Christophe. Dans la première partie de notre rubrique La question en plus, Madame Buzyn, c'est le député insoumis Adrien Quatennens qui vous interpellera sur les médicaments vendus à l'unité. Et puis, nous retrouverons en fin d'émission, comme d'habitude, Marie-Pierre Haddad pour questions nettes, vos commentaires, vos questions à la ministre en direct. Vous pouvez toujours interagir avec le hashtag Le Grand Jury. Alors, Madame Buzyn, la dernière fois que vous êtes passée devant ce grand jury, c'était en octobre dernier, il y a quelques mois à peine, donc, et pourtant, c'était un autre temps, une autre France, où les déçus d'Emmanuel Macron n'avaient pas encore enfilé leur gilet jaune. Une France sans violence aussi, comme celle que Paris a de nouveau connue hier. Alors, faut-il composer avec cette violence, l'accepter comme un dommage collatéral de la liberté de manifester? Ou faut-il aller jusqu'à interdire les rassemblements et rétablir de fait une forme d'état d'urgence? Nous en parlerons bien sûr dans cette émission. Car la colère est toujours là. Et en tant que ministre des Solidarités et de la Santé, vous tenez à ce qu'on le dise dans cet ordre-là, vous allez être en première ligne pour tenter de traduire en mesures concrètes les demandes nombreuses, variées, parfois contradictoires, de tous ceux qui se sont exprimés dans la rue ou pendant le grand débat. Dans votre périmètre direct, il y a donc la santé, la question des déserts médicaux notamment. C'est d'ailleurs l'un des points de la loi que vous allez défendre dès cette semaine devant le Parlement. Nous en parlerons bien sûr aussi dans cette émission. La bonne nouvelle, c'est que vous aurez tout le temps de vous consacrer à votre tâche, car finalement, vous ne serez pas tête de liste aux européennes de mai prochain. On l'a appris, ou du moins compris cette semaine, quand on a écouté Madame Loiseau, Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes. Alors pourquoi avoir renoncé? Peut-être pour mieux vous consacrer à d'autres échéances. On y reviendra dans la seconde partie de l'émission. Mais d'abord, donc, on revient sur la journée d'hier avec cette première question de Guillaume Roquette.
Oui, après le saccage des Champs-Élysées, le président de la République a déclaré hier soir « Je veux qu'on prenne des décisions fortes. Mais pourquoi a-t-on attendu 18 semaines de manifestations avant d'annoncer des mesures fortes pour le maintien de l'ordre ?»
Alors d'abord, on n'a pas attendu puisque nous avons fait une loi anti-casseurs qui d'ailleurs, je le rappelle, la semaine dernière était fortement critiquée comme liberticide. Elle est devant le Conseil constitutionnel et aujourd'hui, cette loi permettrait, si elle était adoptée, de répondre déjà puisqu'elle permet des mesures de prévention.
Mais le président a des doutes apparemment puisqu'il a saisi le Conseil constitutionnel pour vérifier qu'elle était bien légale.
Certains ont émis des critiques quant à, à la constitutionnalité. Donc le président de la République a préféré saisir lui-même le Conseil constitutionnel. Et cette loi, elle permettait justement de répondre à ces casseurs qui débarquent dans Paris en permettant de les arrêter de façon préventive, ce qui n'est pas possible de faire aujourd'hui. Donc nous n'avons pas attendu, mais je rappelle aussi que les manifestations des Gilets jaunes ces dernières semaines étaient en train de se calmer. Il y a eu une manifestation la semaine dernière à Paris qui s'est passée dans le calme, sans aucune exaction. Donc ce regain de violence a été, on l'a vu, cherché par certains Gilets jaunes leaders sur Internet.
Il avait été annoncé.
Les mesures policières qui avaient été prises étaient d'un tout autre ordre que celles de la semaine dernière. Mais il y avait, je le rappelle, en parallèle, une manifestation tout à fait pacifique sur le climat qui a réuni plus de 45 000 personnes à Paris et qui s'est très bien déroulée.
Est-ce que vous n'avez pas sous-estimé, Agnès Buzyn,
non, je crois
ce qui s'est passé hier et la menace?
L'objectif déjà des forces de l'ordre était de bien séparer les manifestants qui avaient déclaré cette manifestation sur le climat et qui souhaitaient manifester pacifiquement pour une très noble cause et une cause qui nous tient à cœur à tous. C'était de les protéger contre justement toutes ces personnes qui risquaient de venir cassé dans Paris, puisqu'il y avait des menaces. Et puis, la police avait renforcé la protection aux abords des Champs-Élysées. Mais sincèrement, les modes opératoires de ces personnes sont très difficiles. Moi, je les ai vus arriver en bas de mon ministère hier, je travaillais. Ils venaient par groupe de 5 ou 6, par des rues différentes. Il faudrait avoir des policiers dans toutes les rues de Paris pour être en capacité de bloquer ces personnes.
Ils sont venus jusqu'à votre ministère pour s'y attaquer ?
Non, pas du tout. Ils se rendaient vers les Champs-Élysées, mais je les voyais arriver par groupe de 5 ou 6. On voit bien qu'ils sont très bien organisés et qu'il est très compliqué.
Mais si vous les voyez la police aussi, pourquoi est-ce qu'on ne les arrête pas ?
Justement, la loi anti-casseurs qui a été présentée aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel permettrait d'arrêter les personnes qui s'apprêtent à commettre des exactions, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui, puisqu'il faut attendre que les personnes commettent un crime pour pouvoir les arrêter. Donc nous savons que quand on arrive avec un sac à dos plein d'armes, on devrait être en mesure d'arrêter les gens et de les punir. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et donc cette loi est absolument nécessaire.
On l'avait fait dans les précédents rassemblements, on avait interpellé ces personnes-là.
On les interpelle, mais on ne peut pas les condamner. C'est-à-dire qu'ils peuvent récidiver à chaque semaine, puisqu'en réalité, vous n'avez pas de preuve qu'ils vont commettre une exaction. Donc c'est très compliqué.
Agnès Buzyn, on ne peut pas attendre que la loi anti-casseurs soit en application. Il faudra attendre un mois avant que le Conseil constitutionnel rende son avis. Le président a dit qu'il fallait tout de suite avoir des mesures. D'ailleurs, le Premier ministre réunit tout à l'heure, cet après-midi à Matignon, le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État.
Oui, absolument.
Pour faire quoi ?
Une réunion a lieu cet après-midi pour des mesures. Ça ne sera pas une nouvelle loi. Nous avons suffisamment de lois et la loi anti-casseurs devrait répondre à beaucoup des interrogations que tout le monde se pose. Il faut qu'elle soit adoptée rapidement. Et puis, il y a une réunion, évidemment, pour voir si des mesures complémentaires dans la façon dont l'ordre est maintenu pourront être prises pour...
Quand seront-elles connues, ces mesures ?
Je pense que le Premier ministre devrait les annoncer rapidement. Je ne connais pas son calendrier, mais la réunion a lieu cet après-midi.
Est-ce qu'on peut interdire les manifestations, par exemple, à titre provisoire ?
Est-ce qu'on peut encore appeler ce qu'on a vu hier des manifestations ? C'est ça la question. Parce qu'en réalité, moi je ne souhaite pas interdire les manifestations, mais une manifestation, d'abord, elle doit avoir un mot d'ordre, elle doit avoir des revendications. Vous voyez hier qu'il n'y avait aucune revendication, aucun panneau, aucune demande particulière. Même les gilets jaunes qui étaient sur les Champs-Élysées n'avaient pas de panneau, n'avaient pas de revendications. Donc, est-ce qu'on peut appeler encore cela une manifestation ? Moi, je suis très favorable, évidemment, à ne jamais toucher au droit de manifester. Ça, je crois que c'est un droit constitutionnel. La question est de savoir jusqu'à quand peut-on appeler ça une manifestation ? Hier, c'était des pillards.
Est-ce que, quand Emmanuel Macron dit hier, également vers 23h, en entrant de son week-end interrompu au ski, tous ceux qui étaient là se sont rendus complices du saccage des Champs-Élysées ? Ça veut dire, est-ce qu'il ne fait pas d'amalgame entre ceux qui sont là, quand même, pour protester, et puis ceux qui sont violents ?
Écoutez, clairement, en province, des manifestations ont eu lieu dans le calme. À Paris, les images que nous avons vues sont des images qui ne laissent planer aucun doute. Les personnes qui avaient un gilet jaune sur le dos, sont-elles des vrais gilets jaunes, des faux gilets jaunes ? Je n'en sais rien. Elles avaient un gilet jaune sur le dos. Elles prenaient du plaisir à voir les saccages. On le voit sur les images.
Elles se prenaient en selfie devant le Fouquet incendié.
Elles avaient l'air très heureuses. Moi, je pense que quand on est témoin d'un crime, quand on est un citoyen normal, on le dénonce et on s'en éloigne. En tous les cas, ça n'a pas été leur comportement. Je pense que ce sont au minimum un cheval de Troie, parce que ça permet, ça met en place les conditions pour que des casseurs puissent agir en toute impunité. Donc voilà, moi je considère que les personnes qui étaient devant le Fouquet, que ça se prend en selfie hier, sont des complices de ce que nous avons vu.
On va écouter tout de suite Éric Ciotti qui était à votre place la semaine dernière, le député LR des Alpes-Maritimes.
Cette violence, elle a contaminé le mouvement, mais je dirais que quelque part, elle a un peu servi le pouvoir, parce qu'elle a altéré, bien sûr, le message de sincérité, très largement soutenu au départ par les Français.
Qu'est-ce que vous répondez à Éric Ciotti ? La violence a servi le gouvernement.
Non, c'est lamentable de dire ça. D'abord, je rappelle quand même que même au tout début, alors qu'il y avait effectivement des revendications que nous comprenons tous, et auxquelles nous avons répondu dès le mois de décembre, je rappelle quand même, avec des mesures d'urgence qui ont abouti à des dépenses de 10 milliards d'euros en faveur du pouvoir d'achat. Donc nous y avons répondu. Mais dès le départ, il y avait des manifestations de violence sur les ronds-points. On a quelques images en tête, tous. Je rappelle que dès le début, il y a eu malheureusement des morts. Ce ne sont pas des manifestations anodines que nous avons depuis plusieurs semaines. Alors, ce sont des morts accidentelles, mais nous avons vu beaucoup de violences sur les ronds-points et des violences dans les mots, dans ce qui circule sur Internet. Donc, il est totalement faux de dire que cela sert qui que ce soit. Ça ne sert jamais la démocratie et jamais un gouvernement de voir des choses aussi violentes survenir dans notre pays.
Mais quand un syndicat de police, l'UNSA, dit hier soir on a laissé les débordements se faire.
Écoutez, je trouve que ce sont des propos polémiques. Personne ne peut imaginer que ça serve qui que ce soit, que ça serve notre pays. L'image de notre pays est dégradée. Ça nuit à la croissance. Qui peut imaginer qu'on ne souhaite pas avoir de la croissance en plus pour réduire le chômage? Tout cela est extrêmement nuisible pour notre pays. Et je pense aujourd'hui que les personnes qui amènent à manifester dans la violence, et notamment les leaders des Gilets jaunes, sont des nihilistes qui ne souhaitent pas que le pays s'en sorte.
Christophe Lacubizet.
Est-ce qu'il n'y a pas un double langage? Est-ce que vous donnez vraiment les moyens de lutter contre ces violences? On a entendu aussi des policiers et leurs syndicats expliquer qu'on avait remplacé les munitions pour les lanceurs de balles de défense, que désormais la portée était beaucoup plus faible et l'impact beaucoup plus faible également. Est-ce qu'au fond, on n'a pas été un peu hypocrite? On a des pudeurs de gazelle, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, sur un autre sujet. Est-ce qu'on se donne les moyens, est-ce qu'on donne les moyens à nos forces de l'ordre d'arrêter ces violences? En changeant leurs munitions pour les aider.
Je crois qu'on donne les moyens à nos forces de l'ordre. Il y a eu beaucoup de débats autour de ces lanceurs de balles, les LDB. Dans les semaines qui viennent de s'écouler, le gouvernement a souhaité que nos policiers et nos forces de l'ordre puissent se protéger vu la violence des manifestations. Je crois a posteriori que nous avons bien fait de maintenir ce type d'armes, même si nous devons nous assurer qu'elles sont utilisées à bon escient. Et je vous rappelle que depuis quelque temps, les policiers qui utilisent ces armes ont une caméra sur leur torse, ce qui permet, en cas d'accident, de mener une enquête. Donc nous avons trouvé la ligne de crête qui permet à la fois à nos forces de l'ordre de se protéger et à la fois d'éviter tout débordement ou toute anomalie dans l'usage de
cette force. Est-ce que justement, Agnès Buzyn, vous êtes à l'origine, vous, ministre de la Santé, donc préoccupée aussi des dégâts physiques que cela peut impliquer pour des Français, pour des manifestants, on l'a vu. Est-ce que vous avez demandé au gouvernement que ces munitions soient changées et du coup, elles l'ont été?
Alors, j'ai été effectivement alertée par le syndicat des ophtalmologistes. Oui. Nous savons, un certain nombre de citoyens ont perdu un œil. Je crois qu'il y a un policier aussi qui a perdu un œil, mais pour d'autres raisons. Personne ne peut se sentir confortable, je dirais, avec des citoyens qui perdent une main ou qui perdent un œil. Sincèrement, la violence appelle la violence. Nous le voyons bien. Nous sommes aujourd'hui dans une surenchère à laquelle nous essayons quelque part de lutter, contre laquelle nous essayons de lutter, parce que la surenchère de la violence, ça ne peut pas satisfaire une ministre de la Santé et la médecin que je suis. Donc aujourd'hui, les ophtalmologistes m'ont saisi. J'en ai parlé à Christophe Castaner. Je souhaite effectivement qu'on travaille encore sur comment ces armes peuvent être utilisées sans mettre en danger, évidemment, la
santé. Donc vous êtes satisfaite de ce changement de munition, vous, ministre de la Santé?
Je ne suis pas suffisamment technique pour dire ce qu'il faut faire. Mon rôle, c'est d'alerter sur le fait qu'il y a aujourd'hui des blessés et que je souhaite que ce type de blessure puisse être évité, évidemment.
Une question qui vient aussi des propos de Marine Le Pen, qui accuse l'extrême-gauche et qui dit que les Black Blocs ont remplacé les Gilets jaunes. Est-ce que vous aussi, vous dites aujourd'hui, c'est l'extrême-gauche qui est dans la rue?
Je n'en ai pas la moindre idée. Je pense que les juges qui auront à juger les personnes qui ont été arrêtées hier seront déterminés de quel extrême nous parlons.
Ça peut aujourd'hui être l'extrême droite aussi pour vous?
Je ne le sais pas. Objectivement, je n'étais pas dans la manifestation
on
hier.
Et
quand on est habillé tout en noir, il est assez difficile de savoir si c'est l'extrême gauche ou l'extrême droite. Mais je sais que dans d'autres manifestations, il y avait des deux bords, ça c'est certain.
Quand il y a des slogans anticapitalistes ou des banques qui sont attaquées, ou le symbole de la richesse comme le Fouquet, c'est plutôt l'extrême-gauche, non?
Je pense que les juges nous diront, en tous les cas, les enquêtes qui vont être menées sur les pédigrés des personnes arrêtées nous permettront de le savoir.
Christophe Jacubizine.
Benjamin l'a évoqué tout à l'heure, le président est rentré précipitamment d'un week-end au ski. La semaine dernière, Christophe Castaner s'est détendu dans une boîte de nuit. Est-ce que ce sont des attitudes qui sont opportune dans le contexte que l'on vit? C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement un ministre a le droit quand même et un président de prendre un peu de repos ou pas?
Écoutez, la semaine dernière, je le rappelle, il y a eu des manifestations. Elles étaient nettement en baisse numériquement, avec beaucoup moins de manifestants. Elles s'étaient toutes déroulées dans le calme. Le ministre de l'Intérieur a été à 11h du soir à un anniversaire. Je pense que ça fait partie de sa vie privée. Je ne crois pas que ça ait nui à l'exercice de son ministère. Alors, je pense que c'est pareil pour les manifestations d'hier. A posteriori, c'est très facile de dire que ça atteint un niveau de violence absolument extrême et que les images de voir le président de la République en week-end peuvent être choquantes. Le président de la République a pris les décisions qui s'imposent, qui étaient de rentrer de son week-end. Il a tenu une cellule de crise hier soir avec le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. Et donc, il est parfaitement au travail. Je crois que personne en France ne peut douter que le président de la République travaille et travaille plus qu'aucun de ses prédécesseurs.
Donc, mais la symbolique est importante et là, pour le coup, elle est ratée.
Il est rentré. Personne ne pouvait se douter alors que la semaine dernière, les manifestations...
Il y avait des alertes importantes.
Mais nous avions aussi pris un certain nombre de dispositions. Les forces de l'ordre avaient été augmentées numériquement. Elles étaient bien positionnées. Elles protégeaient aussi une manifestation pacifique en faveur du climat. Le président de la République est rentré hier pour pouvoir tenir cette cellule de crise et je pense qu'il nous demande, nous gouvernement, en tous les cas au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur, de prendre les mesures nécessaires.
D'autant qu'à l'issue de cette cellule de crise, il a déclaré « nous n'y sommes pas, donc il faut prendre ces mesures ». C'est une forme de désaveu du ministre de l'Intérieur.
En tous les cas, je pense qu'il était effectivement... insatisfait, c'est le moins qu'on puisse dire, du fait que les choses avaient été insuffisamment contrôlées alors que les moyens avaient été mis. Ça peut être aussi la méthode que nous utilisons qui n'est peut-être pas adaptée à des bandes aussi organisées. Et vraiment, moi, j'ai été surprise de voir leur modus operandi, c'est-à-dire d'arriver par tout petits groupes, par des rues multiples, qui font que c'est extrêmement difficile à bloquer.
Est-ce que, quand Édouard Philippe, toute dernière question sur ce sujet, dit que tous ceux qui excusent ou qui encouragent les actes violents s'en rendent complices, qui encouragent les actes, est-ce que c'est aussi des hommes politiques qui sont visés? Alors, on dit souvent, Jean-Luc Mélenchon n'est pas assez catégorique sur l'usage de la violence, qu'il a des propos qui pourraient y contribuer. Quelle est votre position, Agnès Buzyn?
Alors, moi, je pense qu'il s'adressait aux leaders des Gilets jaunes, qui ont appelé à manifester dans la violence. Je le rappelle, est-ce qu'on peut appeler encore ça une manifestation? Je pense qu'on est à la limite sémantique. Mm-hmm. En tous les cas, je pense qu'il s'adressait à ces leaders qui sont très suivis sur les réseaux sociaux et qui clairement demandent des actes violents. Moi, je crois que ça n'est pas anodin. C'est parce que nous avons aussi permis aux Français de s'exprimer. Mm-hmm. Nous avons mis sur la table le grand débat, qui est un débat démocratique. Et je pense que ça agace les extrêmes de voir que nous sommes en train de réussir ce grand débat et que nous avons permis aux Français d'échanger, de s'exprimer et de faire des propositions. Les propositions, c'est tout ce que ces personnes-là ne souhaitent pas.
On y vient. Vous parlez plus davantage, si je vous entends bien, d'insurrection que de manifestation. C'est bien cela?
Il y a des images sur les Champs-Élysées hier, oui. Alors, pas en province, je ne dirais pas ça de la province.
On passe tout de suite justement au fond des sujets et des préoccupations exprimées lors de ces réunions du grand débat, c'est Question Express.
Le grand jury, Question Express.
Alors, beaucoup de sujets ressortent de ces consultations. Nous allons vous en soumettre 5, Agnès Buzyn. Pour ou contre? Pour ou contre un RSA dès 18 ans?
Nous travaillons. Alors, je vais vous donner une réponse. Nous travaillons au revenu universel d'activité et cette question-là est posée.
Donc, ça, ce serait l'idée de un Benoît revenu... Hamon, le revenu universel d'activité, non?
Non, c'est sans l'activité pour Benoît Hamon, c'est un revenu universel. Mais il ne met pas le mot activité dedans.
Et alors donc, que 18, dès 18 nous souhaitons, ans, ça pourrait être possible?
Nous souhaitons qu'un minimum social qui soit amélioré ou qui soit renforcé lorsque les gens reprennent un travail. Donc c'est ça le revenu universel d'activité. Et donc cette question-là est posée dans les travaux.
Vous êtes favorable dès 18 ans?
À partir du moment où l'activité est primordiale, oui.
Très bien. La gratuité des transports en commun pour les ménages les plus modestes, Agnès Buzyn, pour ou contre?
Alors, vous savez que la gratuité des transports en commun dépend des collectivités.
Mais c'est un gros budget.
C'est un très gros budget.
Il y a des villes qui le font en France. Est-ce que vous pensez qu'il faut le généraliser?
Je pense que tout se paye. Tout doit se payer quelque part. Enfin, de promettre la gratuité sur tout me pose un problème. Sur les ménages les plus modestes, ça pourrait être effectivement une allocation comme l'allocation logement. Mais ce que je trouve intéressant dans vos questions, c'est que ce ne sont que des dépenses nouvelles. Or, nous nous sommes engagés devant les Français à baisser la dépense publique et à baisser les impôts. Donc j'aimerais bien savoir si vous allez me poser une ou deux questions qui permettent de baisser la dépense publique et de baisser les impôts.
Ben, dites-nous, est-ce qu'il faut baisser quoi en priorité ? La dépense publique
non,
ou les...
enfin, nous travaillons, mais nous avons demandé en français, à partir du moment où ils souhaitent tous
une baisse des prélèvements... Est-ce qu'on peut toucher à la dépense sociale ?
En tous les cas, en tant que ministre des Solidarités et de la Santé, moi je protège le budget social.
Oui, vous réclamez des hausses de budget chaque année.
700 milliards, c'est 700 milliards au total, le budget, toutes dépenses confondues.
Oui, c'est autour de 600 milliards. Mmh. Mais je pense que ce que nous avons fait justement, c'est de demander aux Français quels sont leurs choix, quelles sont leurs préférences. Et nous voyons émerger énormément de propositions de dépenses nouvelles. Or, le primum movens quand même de ce mouvement, c'était des gens qui en avaient marre des taxes, marre des prélèvements obligatoires, marre des impôts. Et à l'arrivée, nous nous retrouvons avec énormément de demandes de gratuité, d'allocations supplémentaires.
On va y revenir.
Comment faisons-nous ?
On va y revenir. Ce sont des propositions qui émanent du Conseil économique, social, du Conseil économique et social et environnemental, hein, ces deux propositions. Il y en a une troisième, c'est un stage de pauvreté obligatoire pour les élus et les hauts fonctionnaires et travailleurs sociaux. Alors, ça peut paraître comme ça gadget, mais peut-être aussi se rendre compte de ce qu'est la vraie pauvreté dans ce pays. Vous trouvez ça...
Oui, mais ça laisse entendre dire que sous prétexte qu'on est un haut fonctionnaire, on a toujours vécu dans la...
Est-ce qu'on est connecté ?
Oui, bah je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi pas faire des stages de toute façon, faire des stages dans différents métiers, différentes situations sociales ou professionnelles. Nous le souhaitons et moi je le souhaite. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que mes équipes au ministère puissent être plus souvent dans les hôpitaux ou puissent être plus souvent confrontées à ces personnes qui sont au guichet en réalité. Mmh. Je pense aux travailleurs sociaux. Donc oui, j'y suis favorable, mais je trouve que la façon dont c'est rédigé laisse penser que les hauts fonctionnaires sont forcément déconnectés. Personne ne connaît le passé des personnes qui ont passé des concours. Moi, je connais beaucoup de collègues qui ont passé des concours de médecine, qui sont, comme moi, des médecins hospitaliers et qui viennent de milieux très défavorisés. Donc, je trouve que ça donne l'idée qu'il y a des hauts fonctionnaires déconnectés et qui viennent de milieux forcément favorisés. Ce n'est pas le cas.
C'est un peu démagogique, ce genre de proposition.
C'est un peu démagogique, même si sur le fond...
Elle vient du CESE, hein.
Sur le fond, je pense qu'il faut que les personnes qui sont dans l'administration soient confrontées en permanence et fassent en permanence des allers-retours avec le terrain. Et ça, je crois que c'est très important.
Deux dernières mesures très concrètes, et on en vient aussi aux dépenses et aux impôts. TVA 0% sur les produits de première nécessité, Agnès Buzyn.
Alors, là encore...
Oui, en effet, mais c'est une demande récurrente, et oui. C'est celle de Xavier Bertrand. Au micro de RTL, c'était jeudi.
Oui, mais sincèrement, autant ça me paraît très, très important et très utile, et une demande qui correspond à des besoins pour une certaine partie de la population en grande difficulté et qui a du mal à finir les fins de mois, sachant que notre TVA, déjà sur les produits de première nécessité, est une des plus faibles d'Europe.
Donc il faut faire le tri, pas surtout.
Et franchement, pourquoi donner de la TVA gratuite, enfin supprimer la TVA pour des personnes qui ont les moyens d'acheter leur pain et leurs produits de première nécessité. Donc c'est cela qui me gêne. Moi, je trouve qu'il faut peut-être mieux aider les personnes les plus vulnérables plutôt que de supprimer la TVA, qui est quand même un impôt qui est payé aussi par les personnes les plus riches.
Et enfin, retraite à 65 ans. C'est une proposition de Xavier Bertrand pour dire que c'est le seul moyen, dit-il, eh bien, de régler la question des retraites dans ce pays avec un déficit récurrent. Agnès Buzyn.
Alors, la question de l'âge du départ à la retraite, vous l'avez compris, est sans arrêt sur la table, à gauche comme à droite. À gauche, on nous demande de le baisser, à droite, on nous demande de l'augmenter. Moi, j'entends ces débats. Le président de la République avait pris... lors de sa campagne, il avait pris l'engagement devant les Français de ne pas toucher à l'âge de départ à la retraite. Après, nous allons mener une réforme des retraites pour rendre les retraites plus universelles, plus compréhensibles pour les Français et avoir un système qui pérennise notre système par répartition. Peut-être que cela, ça sera en discussion avec les partenaires sociaux dans le cadre de la réforme générale.
Quand cette réforme ? Parce que est-ce que le contexte social ne fait pas que vous hésitez, vous reculez la date ?
Non, absolument pas. Nous sommes sur du dur aujourd'hui. Nous travaillons sur les régimes spéciaux. Un certain nombre de propositions ont été mises sur la table et les partenaires sociaux s'en sont emparés. Ils vont nous faire des propositions de retour. Donc nous sommes vraiment au bout de la concertation avec les partenaires sociaux. Et pour l'instant... Le calendrier n'est pas remis en cause.
Vous ne renoncerez pas à cette réforme des retraites ?
Non, parce que c'est vraiment une réforme qui répond à une inquiétude profonde des Français et des jeunes en particulier. Les jeunes, quand vous les interrogez, ils pensent tous qu'ils n'auront pas de retraite. Ils pensent qu'on est en train de se servir sur leur dos, parce que la retraite par répartition, ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent les retraités d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les actifs en cotisant payent les retraites. Et donc ce régime par répartition, ils sont persuadés qu'ils ne seront plus capables d'en bénéficier dans 20 ans. Donc c'est pour moi une réforme profondément sociale et profondément égalitaire. Elle va permettre que tout le monde soit traité à la même enseigne. Aujourd'hui, avec les régimes spéciaux et avec toutes les façons dont on traite les pensions de réversion, etc. Il y a des milliers de types de retraites différents qui font que, selon que vous avez tel ou tel statut, que vous avez eu tel ou tel métier, alors que vous avez cotisé la même somme et gagné la même somme, vous allez bénéficier de droits très différents. Ça n'est pas possible.
Vous venez de nous dire quand même que les 65 ans, ça sera sur la table de la discussion.
Je pense qu'en tous les cas, un certain nombre de propositions faites par les Français vont probablement évoquer la question des retraites.
Et vous n'y êtes pas hostile, vous, personnellement ?
Je ne suis pas hostile. Pourquoi ? Je suis médecin. Alors, je vais être honnête. Je suis médecin. Je vois que la durée de vie augmente d'année en année. Elle augmente moins vite ces dernières années, mais elle a considérablement augmenté. Mon objectif, c'est aussi que les personnes vivent le mieux possible et soient le plus autonomes possible. Et nous avons aujourd'hui des personnes de 65-70 ans, quand on les voit, on est tous d'ailleurs très heureux de voir des personnes qui sont en pleine possession de leurs moyens, qui sont sportifs, qui profitent de la vie. Et nous savons aujourd'hui que les retraites que vont prendre les actifs d'aujourd'hui vont durer 20, 25, 30 ans. Puisque la durée de vie augmente, nous allons vivre jusqu'à aujourd'hui 86 ans pour les femmes, bientôt 90 ans en moyenne. Voilà, est-ce que, alors que le nombre d'actifs diminue, est-ce que indéfiniment nous allons pouvoir maintenir sur les actifs le poids des retraites qui vont augmenter en nombre et augmenter en durée? Nous savons bien que cet équilibre-là va être de plus
Emmanuel
en plus difficile
Macron
à tenir.
Emmanuel Macron est plutôt favorable également?
Non, le président de la République, il a pris un engagement devant les Français. Nous verrons, parce que la réforme des retraites, elle ne se mettra pas en place tout de suite. Ce ne sont pas pour les personnes qui, aujourd'hui, sont à 5 ans de la retraite, par exemple. Donc, nous verrons si, dans la réforme, il conviendra éventuellement de proposer un allongement de la durée du travail.
Alors, on reviendra sur la réindexation en seconde partie. C'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour, Madame la Ministre. Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord. Madame la Ministre, on estime que près d'un médicament sur deux n'est pas utilisé. En 2017, Emmanuel Macron promettait la vente à l'unité afin d'éviter ce gaspillage. Nous sommes en 2019 et ce n'est toujours pas possible. Vous mettez en avant des problèmes de sécurité et de traçabilité que vous pourriez résoudre en donnant à l'Agence nationale de sécurité du médicament les moyens nécessaires pour remplir ses missions. Madame la ministre, sur ce sujet, n'avez-vous pas tout simplement cédé au lobby pharmaceutique ?
Agnès Buzyn, c'est Adrien Quatennens au micro de Judith Lenoyel.
C'est dommage, il pose une très très bonne question et il termine par une phrase totalement électoraliste, complotiste, classique, l'industrie, les lobbies. Moi j'en ai vraiment assez de ce discours. Alors on va revenir à la question qui est bonne, est-ce qu'il faut donner les médicaments à l'unité ? C'est une très bonne question, il y a des pays qui ont réussi à le faire. Je pense que ça a de l'intérêt pour les médicaments qui ont des prescriptions de durée courte, comme les antibiotiques. Parce que ça évite qu'on accumule des antibiotiques dans ces placards et qu'on les jette parfois dans l'environnement, etc., ce que font tous les Français. Donc moi, je suis très favorable à ça pour les médicaments de courte durée. Quand vous avez un traitement à vie contre l'hypertension, franchement, aller récupérer 300 comprimés
oui,
pour être traité...
Mais est-ce que ça va se faire, justement?
Donc,
est-ce que ça
mais va le se problème, faire c'est que ça nécessite... Alors, nous avons travaillé, il y a eu une expérimentation qui a eu lieu en Bretagne. Nous avons travaillé, ça nécessite de la part des pharmaciens, en fait, des équipements particuliers pour assurer la traçabilité des médicaments. Parce qu'une fois que vous les sortez de la boîte, vous ne savez plus quelle est la durée de préemption, et donc ça oblige le pharmacien à tout écrire pour les piluliers. Donc, c'est compliqué techniquement, c'est le seul problème. Rien à voir avec l'industrie et le lobby, absolument rien. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir non plus avec les moyens de l'Agence du médicament. C'est vraiment un problème technique pour les pharmaciens d'officine.
Voilà pour votre réponse à Adrien Quatennens, Agnès Buzyn. On se retrouve dans quelques minutes pour votre grand jury. Ce sera la deuxième partie. On parlera notamment des européennes. À tout de suite.
Du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Christophe Jacubizine de TF1 LC et Guillaume Roquette du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie.
Vous avez défendu la désindexation des retraites sur l'inflation qui a permis d'économiser 1 800 000 euros. Avez-vous changé d'avis ?
Écoutez, je crois que dans les revendications qui remontent du terrain, cette désindexation des retraites est remise en cause. Donc tout cela est sur la table aujourd'hui.
Ah, c'est une ouverture, ça veut dire que vous allez peut-être faire un geste sur les plus petites retraites et réindexer peut-être sur l'inflation ?
En tous les cas, ça remonte du terrain. Et donc, comme nous allons répondre aux propositions des Français, toutes ces revendications et toutes ces propositions vont être examinées par le gouvernement.
C'est prévu pour 2020, ça peut être anticipé, cette réindexation ?
Aujourd'hui, toutes les propositions des Français seront examinées,
vous n'êtes pas langue de bois, Mme Buzyn. Vous nous dites les choses, vous dites je suis honnête. Alors dites-nous, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on réindexe ? Il y a quelque temps, vous disiez que ça fait 1 800 000 d'euros. Est-ce que vous dites, bon, on entend le message des Français, il faut le faire ?
Tant pis pour les économies.
Voilà.
Encore une dépense, donc je l'entends. Donc la question qui se pose, c'est où allons-nous faire une économie ? C'est toujours pareil. Donc j'entends cette dépense, c'est une demande, et je pense qu'elle est légitime. Je n'ai pas de difficulté à comprendre.
Et donc acceptée, acceptable.
Aujourd'hui, cela veut dire des économies ailleurs. Donc, nous devons trouver où faire des économies.
Alors, certains vous proposent des économies sur un sujet dont on parle systématiquement dans ce genre, sur les cigarettes, Agnès Buzyn, et sur une augmentation supplémentaire du prix au profit de l'État pour remplir ses caisses. Ça sera 10 euros en 2020. Vous maintenez cet objectif ?
Absolument.
Est-ce que vous voulez aller plus loin en 2020, d'ici 2022, d'ici la fin du quinquennat, à 12 euros, à 15 euros, comme c'est le cas dans certains pays européens aujourd'hui ? Agnès Buzyn.
Oui, effectivement, c'est à 15 euros, je crois.
En Norvège.
C'est pas loin de 15 euros en Angleterre. Et ça doit être à 20 ou 25 dollars en Australie. Donc,
Alors, effectivement, on en est loin. Donc, ça veut dire que quelque part, vous y pensez là-dessus. Peut-être.
Non, le problème, c'est que ça sera une taxe supplémentaire. Et donc, nous avions dit que nous ne souhaitions pas augmenter les prélèvements obligatoires chez les Français. Aujourd'hui, l'engagement que j'ai pris quand j'ai augmenté les taxes sur le tabac, ça a été que toutes ces taxes abondent dans un fonds de prévention. Ce ne sont pas des taxes qui vont à l'État pour les dépenses publiques.
Bah, a fortiori.
Enfin, ça va à l'État, mais
si
simplement pour faire
de
la prévention.
Publique.
D'accord, donc ce serait des taxes orientées. En général, ça n'est pas comme ça que sont procédés les prélèvements obligatoires. Et donc, voilà, si cette proposition est sur la table, nous l'examinerons. Enfin, certains nous disent aussi que ça réduit le pouvoir d'achat des personnes les plus pauvres. Donc, il faut mettre en balance, évidemment, ce que ça rapporte, sachant que j'avais refusé que ça rentre dans les prélèvements obligatoires généraux. J'avais souhaité que cette taxe alimente un fonds de prévention des addictions. Et c'est le cas. Oui. Donc, ça serait un autre mode de prélèvement obligatoire qui rentrerait donc dans ce qui alimente la dépense
publique. Toujours sur ce thème, Christophe Jacubizine.
Oui, puisque vous parlez de prévention, est-ce que le vapotage est meilleur pour la santé ? On voit des études qui disent que les vapoteurs ont plus d'accidents cardiovasculaires. Alors, est-ce qu'il faut encourager ou décourager les gens de vapoter ?
Alors, aujourd'hui, les gens qui s'engagent dans le vapotage sont clairement des personnes qui souhaitent s'arrêter de fumer. Tout laisse à penser quand même que la cigarette est nettement plus toxique que le vapotage.
Mais c'est vrai que les jeunes qui se mettent à vapoter alors qu'ils n'ont pas été fumeurs.
C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que les lieux de vapotage soient les mêmes que ceux de la cigarette. Nous n'avons pas ouvert à des lieux de vapotage dans les lieux publics, par exemple. Vous n'avez le droit de vapoter qu'aux mêmes endroits où vous avez le droit de fumer une cigarette. Pour éviter justement cette entrée dans l'addiction à la nicotine, en réalité. Bon, et pour ceux qui souhaitent s'arrêter, je pense que c'est un bon outil. Mais nous ne connaissons pas effectivement les toxicités à long terme. Nous n'avons pas assez de recul.
Agnès Buzyn, qu'on connaisse pas.
La cigarette, il a fallu 30 ans pour comprendre qu'elle donnait le cancer.
Donc on va attendre autant pour savoir qu'il y a des effets nocifs sur le vapotage. C'est là où on ne comprend pas.
Bah, écoutez, c'est la science. C'est-à-dire, pour connaître les effets à long terme d'un produit, il faut avoir suffisamment de recul. Aujourd'hui, nous savons par exemple que certains des produits contenus créent un peu d'inflammation cellulaire. Est-ce que cette inflammation est suffisante pour, dans 10, 20 ou 30 ans, donner des pathologies ou des maladies? Nous ne le savons pas.
Le principe de précaution qui est aujourd'hui
universel, c'est la raison pour laquelle
appliqué à tout.
Vous avez raison, c'est la raison pour laquelle moi je préfère nettement que les gens arrêtent de fumer avec les substituts nicotiniques. Et pour cela, j'ai fait en sorte qu'ils soient remboursés par la Sécurité sociale depuis l'année dernière. Donc ce sont les patchs, les chewing-gums, tous ces substituts sont totalement pris en charge par la sécurité sociale quand ils sont prescrits par un médecin, une sage-femme par exemple. Et donc aujourd'hui, nous avons vu une augmentation de la vente de ces produits grâce au remboursement de 75% en un an, ce qui me laisse espérer que beaucoup de Français s'engagent dans l'arrêt du tabac.
Toute dernière question sur ce sujet. On peut revenir d'un pays européen aujourd'hui avec 4 cartouches.
Oui, on a limité.
Est-ce que vous voulez limiter encore ?
C'est déjà une limitation par rapport à ce qui existait avant. Et nous travaillons avec Gérald Darmanin à une harmonisation des prix du tabac au niveau européen. Nous avons déjà obtenu beaucoup de progrès de la part d'Andorre, qui était un lieu d'achat récurrent des Français. Donc le prix minimum du tabac a augmenté à Andorre. Nous essayons de l'obtenir au Luxembourg et dans les pays limitrophes de la France. C'est un travail que nous avons au niveau européen.
Un autre sujet d'actualité, bien sûr, les vaccins, Guillaume Rocher.
Sujet de santé publique, les vaccins. Le nombre de vaccins obligatoires pour les nourrissons est passé de 3 à 11. Du coup, il y a des familles, des parents qui disent c'est trop. Est-ce que justement, vous n'en avez pas fait trop ?
Alors, c'était le calendrier vaccinal recommandé. Il y avait 11 vaccins.
Recommandé, mais non obligatoire.
Alors, 3 obligatoires et les autres recommandés. C'est un calendrier vaccinal qui existe dans tous les pays du monde. L'Italie, je le rappelle, a rendu 12 vaccins obligatoires. Et puis surtout, je veux rassurer les Français, notre système immunitaire, il est fait pour répondre à des milliards d'agressions extérieures. Et donc, des milliards, vous imaginez que 11 vaccins, 11 antigènes vaccinaux, ça n'est rien par rapport à la capacité de notre système immunitaire à répondre à des milliards et des milliards de bactéries, de virus. Et donc, en réalité, il faut mettre ça en regard de comment est fabriqué le corps humain. Il est fait pour répondre, en fait, à des milliards d'antigènes. Donc, 11, c'est recommandé dans tous les pays du monde. C'est ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé. Et ça n'est absolument pas trop.
Mais vous pouvez les laisser recommander plutôt que de les rendre obligatoires.
Entre 7 et 8 enfants sur 10, depuis des années, faisaient déjà le calendrier vaccinal au complet, c'est-à-dire avaient déjà ces 11 vaccins. Et donc, l'obligation, elle permet simplement de passer de 8 enfants sur 10 à 9 enfants sur 10, ce qui permet une meilleure couverture vaccinale de notre pays, ce qui permet d'éviter que ces virus et ces bactéries circulent dans le pays, et ce qui protège ceux qui ne peuvent pas être vaccinés.
Marine Le Pen demande que tous ceux qui arrivent en France soient vaccinés.
C'est le cas déjà. Nous faisons très attention à ce que lorsqu'un enfant arrive, notamment via des migrations, il soit pris en charge par des associations, par les autorités sanitaires. Et évidemment, nous mettons en œuvre des programmes de rattrapage vaccinal pour ces enfants. Alors, je ne peux pas dire que 100% des enfants le soient. Certains peuvent échapper aux procédures d'entrée, mais la plupart de ceux qui sont repérés par les associations et pris en charge par les associations, la grande majorité des enfants ont un suivi médical. On évalue, par exemple, et c'est le cas aussi pour les mineurs non accompagnés, de savoir s'ils sont atteints eux-mêmes de maladies, comme de la tuberculose. Tout cela est totalement regardé par les autorités, par les associations, et c'est traité.
Agnès Buzyn, il y a eu cette semaine une menace de grève des gynécologues de France de ne pas pratiquer d'IVG pour protester contre des assurances trop chères, de manière assez schématique, pour une quinzaine d'entre eux, une quinzaine de gynécologues. Vous avez dit que vous trouviez ça scandaleux. Est-ce que Bertrand de Rochambeau, qui est le patron de la Fédération des gynécologues de France, est-ce que vous avez l'impression qu'il lui-même avait à un moment donné comparé l'IVG à un homicide ? Cela avait fait beaucoup parler. Est-ce que vous avez l'impression qu'il défend davantage ses convictions que sa profession ?
En tous les cas, je trouve cette demande honteuse. Franchement, pour eux, c'est honteux. Je crois qu'il n'y a personne pour les soutenir. Le droit à l'IVG est un droit inconditionnel. Il menace des femmes qui sont en détresse, souvent dans des situations d'urgence, parce qu'il y a des délais à ne pas dépasser. Et ça n'est pas anodin qu'ils aient choisi cet acte-là. Ils n'ont pas choisi n'importe quel acte de gynécologie ou d'obstétrique. Ils ont juste choisi l'IVG. Et donc, je trouve ça signifiant de leur part.
C'est-à-dire
que vous... ils font du chantage sur le dos des femmes. Je trouve ça absolument inconcevable qu'en 2019, un syndicat d'obstétriciens qui est censé accompagner les femmes lorsqu'elles sont malades, lorsqu'elles ont un besoin de santé, et notamment quand elles sont très vulnérables, en nécessité d'avoir recours à l'IVG, parce que ça n'est jamais facile pour une femme, mettent ça, brandissent cela pour un problème d'assurance qui concerne 15 médecins qui sont accusés d'erreurs médicales. Ces choses-là se règlent au sein du ministère, et je n'ai jamais vu aucun syndicat faire un chantage à l'acte. Donc c'est la première fois que je vois cela, et je trouve ça absolument honteux pour eux.
Vous allez voir de la politique ?
Je ne sais pas si c'est de la politique, si ça en est, c'est de la très très mauvaise politique.
Christophe Jacubizine.
Question qui concerne des millions de Français qui se soignent à l'homéopathie. Est-ce que vous allez dérembourser les médicaments homéopathiques ?
Alors, les médicaments homéopathiques sont autorisés. Ce que j'ai demandé à la Haute Autorité de Santé, c'est de les évaluer pour savoir si, comme n'importe quel médicament, ils doivent être pris en charge par la solidarité nationale, c'est-à-dire remboursés par la Sécurité sociale, qui est issue des cotisations des Français. Pourquoi ? Parce que la Haute Autorité de Santé, elle évalue tous les médicaments. Quand ils sont utiles, c'est remboursé par la Sécurité sociale. Quand ils ne sont pas utiles, n'ont pas montré d'utilité particulière, les gens peuvent les acheter sans forcément que ce soit remboursé. Donc j'attends la réponse de la Haute Autorité de Santé. Soit elle me dit, ce sont des médicaments qui ont prouvé leur efficacité et ils continueront d'être remboursés. Soit la Haute Autorité de Santé dit, ça ne montre aucun effet particulier.
Elle vous dira sans doute ça, parce qu'on
sait que si elle me dit ça,
c'est que les méthodes scientifiques d'évaluation homéopathique en général montrent que donc.
Vous savez, pour les mêmes raisons.
Boiron dit que c'est 1000 emplois. Boiron, qui est le principal laboratoire pharmaceutique en France.
Je crois que 80% des productions de Boiron, en tous les cas des usines qui font de l'homéopathie en France, partent à l'exportation.
Donc 1000 emplois menacés, vous n'y croyez pas ?
Donc là, c'est une menace. Non, je n'y crois pas, puisque c'est. Ce sont des produits qui partent à l'exportation pour la grande majorité. Et d'autre part, je rappelle que ce sont des produits très peu chers, qui sont parfois de l'ordre de 1, 2 euros. Et donc, ceux qui voudront les acheter pourront continuer à les acheter.
On a votre réponse, là.
Non, j'ai dit que j'attendais l'évaluation de la Haute Autorité de Santé. Je l'ai fait pour d'autres médicaments. J'ai été attaquée sur les médicaments anti-Alzheimer l'année dernière. J'ai suivi les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui considérait que ces médicaments n'étaient pas utiles. Et donc, nous les avons déremboursés et donc ce sera comme ça pour tous les médicaments. Tout ce qui est utile aux Français sera remboursé par la Sécurité sociale. C'est plutôt ça l'engagement, même quand c'est très cher.
Guillaume Roquel.
Vous portez un projet de loi pour réformer le système de santé français. L'un des gros problèmes est ce qu'on appelle les déserts médicaux. Est-ce que vous comptez prendre des mesures contraignantes pour forcer des médecins, peut-être des jeunes médecins, à s'installer dans ces zones ?
Agnès Buzyn.
Alors, c'est une demande récurrente et c'est une demande.
Et les Français y sont favorables.
Oui, tous les Français y sont favorables parce qu'on leur donne une réponse simpliste.
Sauf les médecins, peut-être.
Non, même pas. Enfin, les médecins. Le problème, c'est que ça touche les jeunes médecins et surtout, le problème, c'est que tous les pays qui ont mis ça en place ont montré que cette mesure était vouée à l'échec. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une profession qui est insuffisante en nombre et qu'il y a des milliers de postes ouverts partout, les médecins qui déjà n'ont pas envie de s'installer aujourd'hui, ne veulent pas l'exercice libéral, qui veulent un exercice salarié, ils échapperont à l'installation obligatoire en allant choisir un exercice salarié dans un centre de santé, en médecine du travail, en médecine scolaire.
En sortant du système libéral.
Et en fait, ils sortiront du système libéral. Or, ce que nous cherchons à faire, au contraire, c'est à inciter les jeunes à aller s'installer et à choisir l'exercice libéral qu'ils ne souhaitent plus aujourd'hui. Donc toute mesure coercitive qui oblige les jeunes à s'installer va être contre-productive, c'est ce que j'explique aux élus, et je crois que beaucoup d'entre eux l'ont compris, en tous les cas dans les débats à l'Assemblée nationale, en commission, en préparant la loi, je crois que beaucoup de gens ont compris que c'était une mesure qui risquait au contraire de mettre à mal le système de santé français, encore plus qu'il ne l'est. Et je voudrais souligner que avec moi, j'ai aujourd'hui Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, parce que nous portons cette loi à deux, et notamment Madame
clausus.
Vidal porte toute la question de la formation, la fin du numerus clausus, l'ouverture des études de médecine à plus d'étudiants formés différemment, venant d'autres horizons, pour diversifier les profils des étudiants. Et je crois que ça, c'est une mesure que les Français
application
attendent
en 2020,
également.
C'est bien ça sur le numerus clausus.
Application en 2020.
En revanche, alors certains médecins disent qu'il y a eu un manque de consultation et notamment ils sont inquiets de la révision de la carte hospitalière que vous allez engager dès demain devant l'Assemblée nationale. Il s'agira de labelliser entre 500 et 600 hôpitaux de proximité recentrés sur la médecine générale, la gériatrie et la réadaptation. Mais sans chirurgie ni maternité. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement ici, Agnès Buzyn, qu'il n'y aura plus de fermeture de lits dans les hôpitaux globalement en France d'ici au moins la fin du quinquennat ? Parce que quand on regarde les courbes en France, il y a de plus en plus de fermetures de lits sur les 20 dernières années.
Alors, l'engagement que j'ai pris, c'est qu'il n'y ait plus aucune fermeture d'hôpitaux. Et cette mesure, elle répond à cela. C'est-à-dire que des hôpitaux qui aujourd'hui n'arrivaient plus à recruter de médecins, n'arrivaient plus à avoir de l'activité parce qu'ils n'étaient pas suffisamment attractifs. Et même les Français de proximité n'avaient pas toujours envie d'y aller et choisissaient parfois de faire 20 km de plus pour aller dans un autre hôpital. L'engagement que j'ai pris, c'est que ces hôpitaux-là ne fermeront pas. On va les recentrer sur une activité de proximité pour rendre un service à la population alentour. Je voudrais donner un exemple formidable, celui de l'hôpital de Pont-Audemer. C'est un hôpital qui avaient des difficultés de fonctionnement, qui n'avaient pas réussi à recruter d'obstétriciens. La maternité allait fermer, la chirurgie n'avait plus de chirurgien. Ils ont décidé de devenir un hôpital de proximité il y a quelques années déjà, il y a presque une dizaine d'années. Ils se sont recentrés sur la médecine, sur un plateau technique de radiologie, de biologie. Ils ont fait un service d'urgence de proximité. Et cet hôpital, aujourd'hui, il est très attractif pour les médecins. Les médecins libéraux viennent y travailler à l'intérieur. La population est ravie, le maire est ravi. Et c'est un hôpital qui, en plus, attire des spécialistes qui viennent d'autres hôpitaux faire des consultations avancées de spécialité. C'est un hôpital qui assure à la fois la proximité et la qualité des soins.
Mais on est d'accord que l'hôpital de proximité, ça veut dire moins de lits, puisque a priori on hospitalise moins.
Alors, il faut arrêter avec les lits, franchement, c'est un problème qu'on ne rencontre qu'en France. Il y a d'autres pays qui ont beaucoup moins de lits que nous. L'Allemagne a beaucoup moins de lits que nous pour la même population. Mais pourquoi ? Parce que la médecine d'aujourd'hui devient ambulatoire. On ne va pas garder des lits qu'on va chercher à remplir pendant des semaines et des semaines de gens qui peuvent être soignés chez eux et venir à l'hôpital simplement le matin et repartir le soir. Garder des lits, ça veut dire coucher des gens et les faire dormir. Est-ce que l'objectif de la médecine de demain, c'est de faire dormir les gens à l'hôpital ? Non, c'est de bien les soigner.
Christophe Jacubizine.
Alors cette semaine, votre collègue au gouvernement, Nathalie Loiseau, a annoncé qu'elle était candidate, qu'elle souhaitait être candidate tête de liste pour les élections européennes. Est-ce que Nathalie Loiseau, si je puis dire, vous a doublé sur l'aile sur cette histoire d'européenne, parce qu'on vous prêtait des ambitions européennes.
Elle va prêter à tous les jeux de mots, c'est Nathalie Loiseau, Agnès Buzyn.
Alors d'abord, je suis ravie que Nathalie Loiseau soit candidate. C'est une excellente ministre des Affaires européennes.
Qui va quitter le gouvernement,
Elle a été d'une habileté remarquable pour défendre des choses extrêmement importantes sur le droit d'auteur et sur le travail détaché, avec des vrais progrès pour la France, mais pour l'Europe et pour la protection de nos travailleurs. C'est quelque chose que tout le monde nous disait infaisable. Nathalie Loiseau est vraiment une remarquable professionnelle.
Et vous, ça peut traverser l'esprit ou pas ?
Vous savez, le nom, je crois qu'il y a eu 12 noms qui sont sortis dans la presse.
Mais le vôtre avec insistance, Agnès Buzyn.
Pourquoi ? Parce que j'ai simplement dit que je trouvais que les questions européennes étaient des questions majeures d'avenir. Et je continue de le dire. Vraiment, je continue de le dire. Je pense que le destin de la France est étroitement lié au destin de l'Europe et à notre capacité de faire de l'Europe une Europe plus sociale, qui ne soit pas simplement un marché. C'est ce qu'attendent les Français, mais c'est ce qu'attendent tous les Européens. Et je dois rappeler aujourd'hui que tous ceux qui nous ont représentés, tous ces députés qui ont siégé, notamment au PPE, les députés LR, les députés Front National, aujourd'hui, n'ont pas souhaité changer l'Europe. Ils n'ont pas fait ce travail de rénovation. Les députés que La République En Marche et que la majorité dans son ensemble enverra à l'Europe, ce sont des députés qui auront une mission qui est de rendre l'Europe plus sociale, plus à l'écoute de ses concitoyens. C'est une mission de rénovation de l'Europe.
Vous ne serez pas sur la liste, quelque part.
Non, je ne serai pas sur la liste. J'ai toujours dit que je suis venue en politique pour transformer le système de santé et pour améliorer les solidarités.
Donc vous restez jusqu'à la fin du quinquennat à votre poste ? Vous le souhaitez ?
Je souhaite, j'adore ce ministère, je le trouve. C'est le ministère de l'humain, c'est le ministère qui permet la cohésion sociale, c'est le ministère qui peut réparer les douleurs, les injustices et qui traite des vulnérabilités. Et je veux remercier Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État auprès de moi aujourd'hui, pour le travail extraordinaire qu'il fait en faveur de la protection de l'enfance notamment.
Et qui est présent aujourd'hui dans le public. C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Agnès Buzyn. Alors vous avez expliqué que le recul de l'âge de départ à la retraite était sur la table, était une possibilité envisagée. Eh bien ça a été la grande surprise pour les internautes qui ont découvert ça en direct, alors que Emmanuel Macron, lui, s'était engagé à ne pas revenir justement là-dessus. Christiane s'étonne, ah bon, mais c'est sur la table depuis quand ? Elle écrit. Et Agnès, elle vous répond en direct, elle dit « La durée de vie augmente, certes, mais celle en bonne santé, par contre, diminue ». Donc vous êtes ministre de la Santé. Est-ce que vous ne craignez pas que l'on vieillisse plus mal et du coup qu'on travaille plus longtemps dans de plus mauvaises conditions ?
Agnès Buzyn.
Alors, il y a deux inexactitudes dans ce que vous venez de dire. Vous m'avez demandé à titre personnel. Donc, j'ai répondu à titre personnel.
C'est comme la ministre des Retraites. Vous êtes vous qui allez réformer le système, quand même.
Absolument. Je suis la ministre.
Et vous avez le droit d'avoir des convictions.
Oui. J'ai le droit d'avoir des convictions. Je pense qu'un jour, je pense que nous serons obligés de travailler plus longtemps, sinon le système par répartition ne pourra pas tenir. Je rappelle que le ratio, c'est-à-dire le nombre d'actifs qui payent les retraites par rapport au nombre de retraités, ne cesse de diminuer. Donc quand il y aura un actif pour deux retraités, les cotisations ne suffiront plus.
Donc c'est surtout juste votre conviction personnelle, ce n'est pas du tout à l'étude au gouvernement.
Après,
ça sera pas sur la
ce
table.
Que j'ai dit, ce qui était sur la table, c'est que j'ai vu ces propositions remonter du grand débat. Donc à partir du moment où les Français l'évoquent, c'est sur la table. C'est ce que j'ai dit. Les Français l'évoquent dans leurs propositions. Je l'ai vu dans ce qui me concerne. J'ai vu des propositions d'augmenter l'âge de départ à la retraite. Donc je dis, à partir du moment où toutes les propositions qui sont amenées par le grand débat vont être étudiées, nous étudierons celle-là comme les autres.
Il y en a une autre de
elle n'est pas sur la table aujourd'hui par le gouvernement.
Il y a une autre proposition qui est celle de plafonner le reste à charge dans les EHPAD. Est-ce
Absolument.
Que vous êtes favorable à
Alors, dans le travail préparatoire de la loi sur la dépendance, puisque je rappelle qu'il y a eu une grande consultation, une consultation publique sur la dépendance, auquel plus de 400 000 Français ont répondu et ont fait des propositions. Ça fait partie des propositions qui sont instruites actuellement. J'attends un rapport sur ces propositions qui va être remis le 28 mars. Et donc, on va travailler parce qu'effectivement, le reste à charge en EHPAD est aujourd'hui insoutenable pour beaucoup de familles. Je crois qu'il faudra qu'on réponde un jour à cette question.
Marie-Pierre Haddad.
Et aussi une autre proposition du grand débat, cette fois-ci qui est soulevée par La République En Marche, votre parti, c'est de travailler un jour de plus pour financer la dépendance des personnes âgées. Donc, un jour férié de plus travailler. Donc, évidemment, les internautes, ils sont contre. Ils ne comprennent pas du tout pourquoi vous voulez faire ça. Et est-ce que c'est une piste que vous envisagez toujours? Vous y êtes favorable?
Écoutez, je crois qu'on m'a demandé de réfléchir à une réforme de la prise en charge du grand âge et de la dépendance. On est tous d'accord aujourd'hui pour dire que les EHPAD, et notamment les personnels en EHPAD, mais également les personnes âgées en EHPAD, qui ne choisissent souvent pas d'y aller, sont aujourd'hui un modèle qui est un modèle assez français. Et on voit dans d'autres pays du monde proposer des modes d'hébergement plus alternatifs, avec plus de services donnés à la personne. On voit que les personnes âgées veulent vieillir chez elles. C'est une demande récurrente. Donc, nous devons transformer notre modèle. Donc, on m'a confié cette tâche. J'y suis pleinement attelée aujourd'hui. Et évidemment, il faudra réfléchir au financement. Parce que
donc,
nous ne pourrons pas
piste,
faire ça.
Agnès Buzyn. Vous le dites aux Français aujourd'hui. Il faut
aujourd'hui,
qu'ils s'attendent à travailler un jour de
trouve les
de
moyens de financer la dépendance, puisque nous allons avoir un triplement des personnes de plus de 85 ans en France dans les 30 ans qui viennent. Donc nous devons répondre à cela. La République En Marche a fait cette proposition. Pourquoi elle a fait cette proposition? Parce que c'était la solution qu'avait trouvée Jean-Pierre Raffarin en 2004 pour financer la dépendance. Donc ça avait été fait par le passé et donc La République En Marche fait cette proposition. Moi j'attends toutes les pistes. On va m'en proposer un certain nombre. Je ne sais pas d'ailleurs si celle-là sera dans le rapport qui va m'être remis le 28 mars. Mais en tous les cas, il est clair qu'il va falloir réfléchir au financement de la dépendance. On va dans le mur. On va tous dans le mur et on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui de la façon dont fonctionnent les EHPAD. Les professionnels souffrent, les familles sont culpabilisées.
On a entendu sur
voilà.
ce sujet.
Même si, je dois rappeler, les professionnels qui y travaillent font un travail en majorité absolument
ça, en effet,
admirable.
Tout le monde vous rejoindra. Une toute dernière question. Marine Le Pen a réagi en direct tout à l'heure.
Exactement. À l'instant, elle réclame la dissolution des groupuscules d'extrême gauche après les violences qui ont eu lieu hier. Vous en avez vous-même parlé en début d'émission. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Est-ce qu'il faut
Moi,
dissoudre
Je suis
ou
toujours
pas les
favorable à ce qu'on fasse disparaître les groupuscules ultra-violents. Je ne sais pas s'ils sont de gauche ou de droite, mais tout ce qui prône l'ultra-violence aujourd'hui n'a pas de raison d'être dans une démocratie. Donc, voilà. Après, j'ai cru comprendre aussi hier qu'il y avait certains groupuscules qui venaient de l'étranger. C'est ce que l'on m'a dit. Donc, on voit bien aussi que ces manifestations non déclarées permettent à certains de s'infiltrer de partout pour casser.
Merci beaucoup Agnès Buzyn, c'était votre grand jury. Merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Très belle semaine à tous.